France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Mathieu Laurent. Rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à tous. Au sommaire, le récit de nos envoyés spéciaux au Liban, Martin Troadec et Étienne Menin, qui ont cheminé des quartiers du sud de Beyrouth vers la frontière israélienne et la localité de Marjayoun, une route jalonnée de destruction due au bombardement israélien. Nous nous rendrons à Jérusalem pour y prendre la mesure des objectifs militaires du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Correspondance de Thibault Lefebvre. Invité de notre édition de cette mi-journée, Delphine Deschaux-Dutard, politiste, directrice adjointe du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes. Avec elle, nous aborderons les approches diverses de cette guerre au Moyen-Orient de la part des États membres de l'Union européenne. Dans l'actualité française, la pauvreté qui n'a jamais atteint des niveaux aussi élevés depuis 30 ans, les Restos du Cœur ouvrent aujourd'hui leur collecte de dons alimentaire. Enfin, un sens interdit entre Rachida Dati et Sarah Knafo. La candidate LR refuse d'avance toute alliance avec sa rivale Reconquête au second tour des municipales à Paris. Ce sera un décryptage d'Adrien Toffolet. Un désastre humanitaire se profile, ce sont les termes du Premier ministre libanais Nawaf Salam qui s'alarme des conséquences des frappes israéliennes qui, depuis le début de la guerre, cible des terres sous contrôle du Hezbollah et des repères de la milice chiite. Il figure les quartiers du sud de la capitale, Beyrouth, quartier que nos envoyés spéciaux Martin Troadec et Étienne Monin ont quitté pour faire route vers la frontière sud du Liban, précisément à Marjayoun. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Étienne, qu'avez-vous observé au juste tout au long de votre descente vers Marjayoun ?
Alors, dans ce paysage agricole au milieu des collines, à côté des oliviers et des orangers, on entend par moments des tirs. Ils viennent d'un village voisin qui est tenu depuis le début du conflit quasiment par les soldats israéliens. Mais globalement, à cette heure, la situation reste assez calme. Nous sommes donc à Marjayoun. C'est un village majoritairement chrétien, entouré par des communes chiites. Il fait face à l'un des secteurs les plus disputés. Il est tout près de la frontière israélienne. Les rues sont assez calmes. On voit passer des véhicules militaires essentiellement, libanais et des convois de la Finul. Mais la plupart des habitants sont partis. Ceux qui restent s'accrochent à leur maison. On est en quelque sorte dans une enclave chrétienne. Les habitants de 7 villages au total ont décidé de mutualiser leur sort. Ils voient et ils entendent les bombardements, mais ils estiment que cette guerre n'est pas la leur. Ils ne se sentent ni concernés ni ciblés. Ils comptent rester, y compris en cas d'invasion israélienne. Tout cela concerne environ aujourd'hui, maintenant, sur ces 7 villages, 2 à 3 000 personnes.
Merci à vous, Étienne Menin et Martin Troadec, envoyés spéciaux au Liban. Une série d'environ 8 explosions a été entendue ce matin à Tel Aviv, la grande ville du centre d'Israël, après une alerte aux missiles iraniens. Aucune victime à déplorer selon les secours. Israël, dont l'état-major de l'armée martèle depuis hier, que la priorité est d'intensifier les frappes sur la bureaucratie iranienne, sur les nervures du régime. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour.
Thibault, vous êtes en direct de Jérusalem. Thibault, où en est l'offensive israélo-américaine ?
Alors, plusieurs objectifs ont été atteints. D'abord, vous le savez, les principaux leaders du régime iranien ont été tués. Plusieurs frappes massives, soudaines, samedi dernier, notamment sur la base de renseignements très précis. Une 50aine de morts, dont l'ayatollah Khamenei. Deuxième mission accomplie, la défense anti-aérienne iranienne est désormais quasi inopérante. 80% des radars et des lanceurs de missiles antimissiles sont détruits, selon le chef d'état-major israélien, il s'appelle Eyal Zamir. Israël et les États-Unis ont donc quasiment la maîtrise du ciel iranien. Ça veut dire qu'ils peuvent désormais frapper où ils veulent, quand ils veulent, au plus près des cibles, sans craindre de perdre leurs avions.
Se pose justement la question des buts de guerre et des moyens pour les atteindre.
Oui, avec désormais plusieurs questions. Est-ce qu'Israël et les États-Unis veulent une capitulation du régime iranien ? Vont-ils se contenter de détruire ses capacités de nuisance ? Et puis, vont-ils continuer à utiliser la force pour pousser Téhéran à négocier ? Les Israéliens ont 3 exigences. D'abord, la disparition de la menace des missiles balistiques et de croisière. Puis, la destruction du programme nucléaire. Les Iraniens ont encore 450 kilos d'uranium enrichi à 60%, caché quelque quelque part, de quoi potentiellement fabriquer, selon les autorités de l'État hébreu, plus d'une dizaine de bombes nucléaires, si bien sûr cet enrichissement est poussé à 90%. Enfin, troisième exigence, l'arrêt du financement par Téhéran de ses alliés dans la région, comme le Hezbollah au Liban, vous l'entendiez avec Étienne Monin, ou les Houthis au Yémen, à voir si le président américain Donald Trump, sous la pression de son opinion publique et des marchés, laissera au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le temps d'aller au bout de ses objectifs.
Merci à vous, Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a demandé que l'enquête américaine sur le bombardement présumé d'une école dans la ville de Minab en Iran soit, je cite, « rapide » et se fasse en toute transparence. Ni les États-Unis ni Israël n'ont admis avoir commis une telle frappe. Les autorités iraniennes ont parlé de 150 morts.
Méfiante à l'idée de s'impliquer directement dans la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, l'Europe se retrouve néanmoins entraînée dans le conflit à la suite des attaques contre Chypre et les alliés occidentaux dans le Golfe.
Une Europe dont les États membres n'ont pas nécessairement la même approche, avec toutefois un florilège de déclarations de la part des chefs d'État et de gouvernement qui tourne autour de l'affirmation suivante « Nous ne sommes pas en guerre », nuancier des positionnements européens ainsi que ceux de l'OTAN, avec à Bruxelles Fabien Cazot.
Certes, il ne s'agit que d'une stratégie défensive, mais les Occidentaux semblent décidés à passer des paroles aux actes en musclant leur défense face au risque d'intrusion d'aéronefs iraniens dans leurs espaces aériens. Lundi dernier, une base militaire britannique était visée par un drone iranien au sud de l'île de Chypre. Hier, l'OTAN confirmait qu'un missile balistique a bien visé la Turquie, pays membre de l'organisation. Il n'en a pas fallu plus pour que l'OTAN réagisse en annonçant un renforcement de ces dispositifs antimissiles tant que la menace posée par la poursuite des attaques de l'Iran ne diminue pas. Des attaques à l'aveugle, estime l'OTAN, qui justifie également un déploiement naval de plusieurs États membres de l'Union européenne en Méditerranée. La France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce y participent. Cette dernière déploie également 4 avions de combat F-16 à Chypre et autorise les États-Unis à utiliser une base militaire en Crète. La France, pour sa part, a choisi de permettre hier à des avions américains de stationner sur sa base d'Istres, à condition qu'ils ne participent pas aux opérations militaires en Iran, les Européens se montrant soucieux de ne surtout pas apparaître comme des belligérants actifs au Moyen-Orient.
Fabien Cazot à Bruxelles. Afin d'apprécier ces clivages, d'en comprendre les raisons, nous sommes, comme convenu, en ligne avec notre invitée Delphine Deschaux-Dutard. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Grenoble-Alpes et directrice adjointe du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes. Madame, 6 jours après le déclenchement de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran, on a vu apparaître des clivages importants parmi les Européens. Confère l'Espagne et son hostilité affichée aux opérations israélo-américaines. Comment expliquer justement ces approches si diverses ?
Alors effectivement, ce qui frappe, c'est qu'au-delà d'une ligne un peu commune au sein des 27, qui est de condamner les attaques iraniennes et d'afficher un soutien plus ou moins fort aux actions conduites par les États-Unis et Israël, ce qui frappe, c'est effectivement plutôt la désunion. Et c'est, en fait, ça peut se comprendre à la fois par les différentes stratégies entre les États, mais aussi par, dans le cas de l'Espagne, le fait d'en fait avoir choisi une ligne vis-à-vis de Washington qui n'est pas la ligne des autres États européens, et ça remonte en réalité bien avant l'Iran, ça remonte au sommet de l'OTAN du mois de juin, qui avait vu en fait les États de l'OTAN adopter un nouveau standard de dépenses militaires que l'Espagne avait refusé. Et donc je pense que l'Espagne est vraiment du coup dans la droite ligne de cette posture de résistance vis-à-vis de Washington.
Alors ce qui domine et ce qui est en partage, dirais-je, c'est un peu à l'image de cette phrase que je vais vous livrer, celle de la ministre des Armées Catherine Vautrin qui précisait « La France est aux côtés de l'armée libanaise, lui a livré des blindés mais pas de troupes » et d'ajouter « Nous ne sommes pas en guerre, non sans faire valoir des actions défensives ». C'est déjà faire la guerre ou pas ?
Alors effectivement, la nuance est subtile, mais je crois que, et ça c'est aussi une chose que l'on partage avec la plupart de nos alliés, notamment l'Allemagne ou le Royaume-Uni, l'objectif en fait des États européens et notamment de la France, c'est d'apporter une protection aux États du Golfe, avec lesquels nous avons des accords militaires, sans pour autant entrer dans la guerre, c'est-à-dire participer activement aux frappes israélo-américaines. Donc effectivement, la ligne de crête est difficile, et puis je pense qu'il y a aussi... tournant un peu rhétorique, mais l'objectif est très clair pour l'ensemble des États européens, dont la France, c'est ne pas en fait se faire happer par cette guerre en devenant co-belligérant.
Delphine Deschaux-Dutard, diriez-vous qu'on assiste là à le constat suivant, l'Europe, l'Union européenne n'a pas d'autonomie, n'a ni autonomie ni homogénéité stratégique?
Alors effectivement, c'est encore une fois frappant de voir que la ligne de clivage la plus importante au fond, elle porte autour de la distance vis-à-vis des États-Unis et d'Israël également dans ce conflit. Et ce qui me frappe, moi, c'est de voir qu'on a d'un côté une posture française qui est la posture classique indépendantiste, avec une affirmation visant à porter en fait une indépendance européenne un peu plus forte. Et puis sur les autres États européens, une posture qui est plutôt celle de suivre en fait ce que font les États-Unis, tout en refusant en l'occurrence de s'engager dans la guerre. Et là, j'y vois quand même une petite différence avec le cas de la guerre en Irak en 2003, qui, il faut le rappeler, était déjà à l'époque un conflit qui avait très profondément divisé les États européens entre ceux qui avaient décidé de s'engager dans les actions militaires aux côtés de l'Irak et ceux qui, à l'instar de la France et de l'Allemagne, avaient refusé.
Justement, la France, parlons-en encore une fois, en engageant le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale. Est-ce que la France ne se passe pas en position de fer de lance de la réaction européenne avec, on le sait, l'histoire et qui lie les deux pays? Je parle évidemment de la France et du Liban.
Alors effectivement, l'objectif de la France, c'est d'abord de montrer qu'on a une capacité de dissuader et de prévenir les attaques, une capacité à protéger les intérêts et français et européens et de nos partenaires dans le Golfe. Et ça me rappelle en fait un épisode qui avait eu lieu à l'été 2020, quand la marine militaire turque avait en fait envoyé des bateaux dans les eaux territoriales grecques. Et à l'époque, déjà, la réaction européenne avait été très divisée, avec une réaction française qui avait été d'envoyer justement des bâtiments militaires, là où les autres Européens étaient davantage dans une position de diplomatie.
Alors, un tout dernier point, une toute dernière question qui va nous éloigner de la guerre au Moyen-Orient. Quelle place la guerre en Ukraine joue-t-elle dans le calcul des Européens à l'égard du Moyen-Orient? La guerre en Iran peut-elle, en quelque sorte, affaiblir le soutien à l'Ukraine?
Alors, je pense que c'est probablement une préoccupation que partagent les États baltes et la Pologne en particulier, qui sont à la fois dans une position de soutien à l'action militaire israélo-américaine en Iran, mais pour ne pas s'aliéner justement le soutien de Washington à l'aide dans le cadre de la guerre en Ukraine et en vue en fait peut-être de réarimer davantage Washington dans l'aide militaire à l'Ukraine.
Ben, je vous remercie beaucoup Delphine Deschaux-Dutard. C'est sur ces termes que se referme cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Grenoble-Alpes, membre directrice adjointe même du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes. Merci à Louise Guérin pour la préparation. 56 civils afghans, dont 24 enfants, ont été tués depuis l'intensification des affrontements frontaliers entre les forces afghanes et l'armée pakistanaise la semaine dernière. Après des mois d'accrochage, ces deux États voisins sont engagés dans un conflit armé depuis le 26 février. Le Pakistan a déclaré, je cite, la guerre ouverte aux autorités talibanes, les accusant d'abriter de longue date des militants qui lancent des attaques sur son territoire, ce que les autorités afghanes démentent. La marine nationale sénégalaise a, elle, secouru avant-hier 139 personnes migrantes au large des côtes dans une pirogue à la dérive à bord de laquelle le corps sans vie d'un nouveau-né a été retrouvé. Des milliers de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, en majorité des jeunes, tentent depuis des années la migration clandestine depuis les côtes de leur pays en empruntant la périlleuse route de l'Atlantique pour gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétuste.
L'affaire Epstein et Donald Trump, un rapport du FBI comporte des accusations à l'encontre du président américain.
Un rapport décrivant des entretiens datant de 2019 relatifs à des accusations non corroborées portées par une femme contre Donald Trump. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Camille, dans ces entretiens, cette femme affirme avoir été victime d'agressions sexuelles par le magnat de l'immobilier dans les années 1980, alors qu'elle était mineure.
Une femme dont l'identité a été caviardée, elle avait été entendue en 2019 par le Bureau fédéral d'investissement investigation lors de 4 entretiens au cours desquels elle avait assuré avoir été agressée par Donald Trump dans les années 80 quand elle était mineure, donc, et que lui n'était pas encore à la Maison Blanche. Cette femme s'était manifestée un peu après l'arrestation du criminel sexuel Jeffrey Epstein, que l'on retrouvera plus tard sans vie dans sa cellule. Au cours de ces 4 entretiens, elle avait d'abord assuré avoir été présentée par Jeffrey Epstein à l'homme d'affaires Trump, que ce dernier avait abusé d'elle avant de refuser d'en dire davantage sur cette affaire. Les pages publiées hier avaient en partie été retirées des dossiers Epstein par le ministère de la Justice, qui estimait que ces entretiens faisaient doublon avec d'autres documents. La semaine dernière, le chef de file des sénateurs démocrates a accusé l'administration Trump de dissimulation massive. De quoi se demander, au-delà de ces accusations, pourquoi le ministère de la Justice publie finalement ces documents et pourquoi maintenant. S'il a côtoyé Jeffrey Epstein à une époque, on le rappelle, Donald Trump lui répète qu'il n'a jamais eu connaissance de son comportement criminel et assure avoir coupé les liens avec lui bien avant ses ennuis judiciaires.
Camille Marigot.
Les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur collecte annuelle de dons alimentaires, l'occasion de donner la mesure de l'étendue de la pauvreté en France.
Que ce soit le Secours catholique, l'Association des petites villes de France ou encore l'Observatoire des inégalités, le taux de pauvreté a atteint son niveau le plus élevé en France depuis 30 ans. Bonjour Émilie Tran.
Bonjour.
Vous nous livrez, Émilie, des données qui nous aident à avoir une idée précise de cette sombre réalité.
Plusieurs caractéristiques se démarquent. D'abord, les personnes immigrées. En France, 18% d'entre elles vivent avec 1000 euros par mois. À l'échelle de toute la population, la moyenne est de 8%. Les familles monoparentales sont elles aussi surreprésentées. Au Resto du Cœur, par exemple, quand des familles se présentent avec des enfants, il s'agit dans la moitié des cas de parents seuls et 9 fois sur 10 des mères seules. Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des inégalités, insiste cependant. L'un des facteurs principaux de cette précarité est lié à l'accès à l'emploi.
Être une mère de famille cadre supérieur et une mère de famille caissière à temps partiel avec des enfants, c'est des situations qui n'ont absolument rien à voir. Ces figures de la pauvreté ne doivent pas masquer ce qui se trouve à la base de tout ça, qui est l'accès à une bonne situation, à un diplôme et à un métier qui sera relativement stable et rémunérateur.
Le taux de pauvreté des personnes sans diplôme ou sans certificat d'études est de 13% contre 3,6% pour les bacs plus 5 ou plus. Ces tendances se retrouvent également donc au sein des associations, au Resto du Cœur. Seul un bénéficiaire sur 10 occupe un emploi. Et dans la plupart des cas, il s'agit d'un emploi à temps incomplet ou un emploi instable.
Merci à vous, Émilie Tran. Merci pour toutes ces précisions. La France insoumise à l'Assemblée nationale dépose une proposition de loi pour bloquer les prix des carburants, annonce de la députée Aurélie Trouvé, selon laquelle, je cite, « la guerre s'étend au Moyen-Orient et tous les prix de l'énergie risquent de flamber pour profiter aux multinationales. L'État doit protéger nos concitoyens ». Fin de citation. Rachida Dati et Sarah Knafo, toutes deux candidates à la mairie de Paris, et entre elles, aucune valeur commune. C'est la première qui motive ainsi son refus de faire alliance avec la seconde au deuxième tour des élections municipales. Bonjour Adrien Toffolen.
Bonjour.
Adrien, dites-nous ce qui amène la candidate LR à se tenir à distance, à l'heure qu'il est, de sa rivale Reconquête.
Alors voici précisément ce que dit Rachida Dati, ce qu'elle a dit sur CNews hier soir. Je ne peux pas faire une alliance avec Madame Knafo, avec Reconquête, ça n'est pas possible. Notamment, justifie-t-elle, parce qu'elle siège au Parlement européen dans le même groupe que l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, dont elle souligne la proximité avec les mouvances néo-nazies. Dans l'entourage de Rachida Dati ce matin, on nous assure que sa position vis-à-vis de la candidate zémouriste n'a jamais varié, mais le fait est que jamais auparavant, l'ex-ministre de la Culture n'avait employé de tels mots pour qualifier Sarah Knafo. En février dernier, la candidate LR s'était même refusée à dire que Reconquête est un parti d'extrême droite. Toutefois, elle avait effectivement déjà laissé entendre qu'aucune alliance n'était possible entre les deux candidates. C'était fin janvier. Quelqu'un qui parle de grand remplacement, qui a demandé que je sorte de mes fonctions gouvernementales car j'avais prénommé ma fille Zora. Comment voulez-vous vous entendre là-dessus ? Tout cela est analysé dans un contexte un petit peu plus large. On est à un peu plus d'une semaine du premier tour et le dernier sondage Ipsos BVA pour ici Paris-Île-de-France publié mardi donne le socialiste Emmanuel Grégoire en tête du premier tour avec 35% des suffrages, devant Rachida Dati 27% et l'autre candidat de la droite et du centre, Pierre-Yves Bournazel, à égalité avec Sarah Knafo à 11,5% des intentions de vote. Pour le camp Dati, puisque Pierre-Yves Bournazel rejette encore aujourd'hui toute idée d'alliance derrière elle, La question du vote utile pour battre la gauche est en train de se cristalliser dans ces derniers moments de campagne. On a la droite la plus bête du monde, mais pas les électeurs de droite les plus bêtes du monde, résume une de ses proches. Parce qu'elle est la candidate en mesure de faire basculer Paris à droite, établir une frontière claire avec Sarah Knafo est un appel du pied à l'électorat de Pierre-Yves Bournazel, qui est par ailleurs beaucoup plus centriste et pour qui toute alliance avec l'extrême droite est une ligne rouge.
Merci de toutes ces explications, Adrien Toffolet. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Ciel voilé sur la façade ouest. Le temps se dégrade sur le nord-est, de la pluie en Occitanie. Amélioration en vue dans le nord en soirée. Température encore très douce, de 14 à 18 degrés. 20 degrés à Lille. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois, à la technique Olivier Arnay. Prochaines informations à 18h. Elles vous seront présentées par Fauzi Trita.